les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On ne présente pas Françoise Dolto, qui a été et demeure la psychanalyste et la pédiatre la plus célèbre dans notre pays. Une célébrité qui doit beaucoup à ses nombreux ouvrages abordables pour des lecteurs non spécialistes, et plus encore à Lorsque l'enfant paraît, l'émission de France Inter, à laquelle elle participa entre 1976 et 1978, aux côtés de l'animateur Jacques Pradel. Une émission qui eut un retentissement considérable et sensibilisa le grand public à l'un des thèmes majeurs du travail de Françoise Dolto, à savoir que l'enfant, dès son plus jeune âge, est une personne, un sujet à part entière, avec lequel il est essentiel de communiquer, auquel il est essentiel de parler vrai. Une expérience radiophonique qui, pour cette praticienne et théoricienne de haut niveau, fut peut-être avant tout l'occasion de mettre en lumière l'importance de la prévention sur laquelle elle insistait depuis toujours, pouvant souvent très bien se résumer dans un langage courant à quelques conseils simples et de bon sens adressés aux parents. En 1975, alors qu'elle n'était pas encore la célébrité qu'elle allait bientôt devenir, Françoise Dolto était l'invitée du cinquième volet d'une série de 10 émissions des Chemins de la connaissance consacrée à la cécité. Elle y racontait son expérience de psychothérapie avec des enfants non-voyants et évoquait l'importance du regard dans la relation à l'enfant et dans la relation de l'enfant avec le monde et ceux qui l'entourent. Les chemins de la connaissance, les yeux fertiles, cinquième partie avec Françoise Dolto, au micro de Karine Berriot, première diffusion le 31 octobre 1975 sur France Culture.
Françoise Dolto, vous êtes médecin psychanalyste et vous vous consacrez surtout à la psychanalyse des enfants. Dans votre ouvrage Le cas Dominique, publié aux éditions du Seuil, vous rapportez l'expérience d'un cas d'adolescent psychotique enfermé en lui-même et prisonnier, dites-vous, d'une image souffrance de l'angoisse, d'une image sans parole et sans geste d'autrui. Pouvez-vous nous dire comment le voir s'articule avec le parler dans l'enfance de l'individu ?
Je voulais dire que le mot « voir » que nous employons linguistiquement quand nous parlons les uns avec les autres recouvre autre chose que « voir » quand il s'agit de la perception visuelle. Et là, j'en ai eu la preuve du fait que j'ai fait la psychothérapie de 3 aveugles nés qui ne parlaient que de voir. Et voir, pour eux, c'était avoir introjecté une compréhension de ce qui se passait dans le monde autour d'eux.
C'est-à-dire qu'il y a comme une transposition.
Oui. Un aveugle qui était en institution, parce que ses parents habitaient la province très loin, m'est envoyé autour de 11 ans à l'hôpital, devenu tellement insupportable qu'il fallait s'en séparer. Les troubles du caractère graves, il avait été séparé à 2 ans de ses parents, qui ne pouvaient pas élever cet enfant, enfin, dans des hôpitaux pour essayer de l'opérer, voir ce qu'on pouvait faire finalement en institution. Et cet enfant était en pleine crise édipienne, de jalousie sexuelle vis-à-vis de sa maîtresse de classe qui avait un flirt avec le maître d'une autre classe. C'est ça qui est sorti, il n'arrêtait pas. Je la vois bien, elle m'a à l'œil, ben, toujours c'était des mots d'œil. Elle m'a à l'œil, c'est moi qu'elle vise, c'est toujours moi qu'elle espionne. Tout était projeté de la personne sur elle. Lui, comme si lui avait des yeux pour l'espionner. Alors à un moment, je lui dis, écoute, tu me parles tout le temps de voir, tu n'es pas voyant, et je ne comprends pas. Est-ce que c'est pour que moi je comprenne ce que tu veux dire, mais qu'est-ce que tu veux dire toi par voir ? Elle me dit, ben, quand elle est avec lui, elle a acheté des cerises au magasin qui est à côté. Vous savez, comme si je le connaissais, vous savez, le monsieur qui a des cheveux blancs et qui vend des fruits à côté, eh ben, il les met dans un papier que j'entendais très bien, qui parlait, et puis elle crachait le noyau. Et puis qu'elle avait l'air de s'occuper de nous pendant la récréation. Elle ne s'occupait pas du tout de nous. Elle était occupée qu'avec un tel à qui elle donnait des cerises. Vous voyez, toute cette histoire, c'était une perception auditive d'une relation privilégiée autour de cerise. Ce n'est pas par hasard au point de vue symbolique, puisque la cerise est articulée chez l'enfant au téton. Et il est certain que cet enfant a découvert, tout le monde avait découvert qu'il était aveugle et qu'il faudrait le séparer de ses parents au moment où la mère commençait une autre gestation. Elle s'était occupée énormément de ce bébé qui ne voyait pas, dont on s'est aperçu qu'il ne voyait pas que lorsqu'il a vraiment été en âge de circuler, car dans la maison il était tellement intelligent qu'il avait un radar de tout, il circulait comme s'il voyait chez lui. Et ce sont les médecins qui ont découvert que cet enfant était aveugle et qui ont fait qu'il s'est séparé. Ceci au moment où il y avait un autre frère qui naissait dans la famille. Tout ça se passe dans le Jura, jamais vu les parents. Mais j'ai su ça. Eh bien, ce garçon ne parlait que de voir. Pour un autre, c'était « vous voyez », car il dessinait. Sur de la pâte à modeler, il gravait, il appelait ça dessiner, et il touchait la gravure qu'il faisait, et il disait « vous voyez », car il voit avec le bout des doigts. Alors le mot « voir », il faut nous en méfier, nous l'employons tout le temps, et derrière ce mot, il se passe beaucoup d'autres signifiants que celui qui concerne la vue directement. Mais alors, qu'est-ce qu'il concerne? Qu'est-ce qu'il concerne? Il concerne certainement une relation en miroir, qui n'est pas le miroir plan dans lequel on se voit, qui est une relation, l'autre étant la preuve que je suis. L'autre, c'est par l'autre que je sais que j'existe, et si ce que je dis a sens, c'est parce que l'autre va lui en donner. Et quand nous disons sens, je crois que ça veut dire c'est sensé, je perçois, j'ai sensoriellement perçu. Et nous prenons le mot voir beaucoup plus que entendu, parce que nous avons entendement pour l'intelligence, et voir pour ce qui est de l'autre référent.
Mais justement, le langage marque la relation et par là même, il est sans doute la fonction totalisante qui peut intégrer l'expérience visuelle, alors même que ce n'est pas une expérience au sens d'un concret vécu, mais une expérience transposée.
Oui, justement, mais ce n'est pas une expérience en rapport avec le sens de la vue. Le sens de la vue est symbolique d'un autre sens qui est l'existence vivante dans un corps, dans le temps et dans l'espace.
C'est-à-dire la relation au temps et à l'espace.
La relation au temps et à l'espace qui est transposée dans la parole.
Dans la parole. Qui finalement s'avère la fonction première et essentielle. Justement par rapport à la vue qu'on a tendance à privilégier quand on commence à s'y intéresser, on s'aperçoit qu'en définitive, le langage et le maître de toutes les fonctions.
Absolument. Le langage non verbal seulement. Le langage en parole, prononcé verbalement, est encore une autre image d'une communication de deux êtres vivants qui n'existent que l'un par rapport à l'autre. Un être humain qui ne communique pas n'est pas un être humain.
Et justement, j'étais très frappée en lisant le cas Dominique par la dialectique du regard et de la parole chez cet enfant qui n'arrive pas à communiquer avec le monde extérieur, oui. Qui fait des dessins stéréotypés. Et je crois que le mot stéréotypé que vous employez, oui, est très intéressant, oui, et qui a aussi un langage stéréotypé. Et cette articulation, ce va-et-vient des deux vers un accomplissement de sa personnalité, mmh, par le langage, en définitive, est, je crois, la chose la plus étonnante de cette relation avec Dominique que vous racontez dans le cas Dominique.
Oui. Mais tout ce qui est répété, stéréotypé, est mort. Le vivant qui répète n'est plus vivant. Ça lui tient lieu d'être vivant.
Oui. Donc, lorsque l'enfant n'arrive pas à communiquer et qu'il dessine, est-ce que ce n'est pas à la fois un moyen de trouver la parole, mais aussi un langage autonome, c'est-à-dire que l'enfant dirait des choses dans les dessins qu'il ne dit pas dans le,
exactement,
dans le discours.
Oui, bien sûr.
Et comment s'opère cette différenciation que nous, adultes, nous ne percevons plus ?
Nous savons bien que nous pouvons, par un dessin, représenter mieux.
Oui, mais nous ne dessinons plus, en général. Et pourquoi l'enfant dessine-t-il ?
On dit tout de même, un schéma en dit plus qu'un long discours. On le dit,
on le
et
dit.
C'est vrai.
Mais est-ce que le dessin et le modelage, dont vous faites une utilisation constante,
oui,
dans les psychothérapies,
oui, oui,
et psychanalyse d'enfants, n'est pas une sorte de miroir, de premier,
sûrement,
miroir,
sûrement,
sur lequel l'enfant peut se projeter,
sûrement,
pour
ça,
retrouver les autres?
C'est certainement ça, oui.
Et la présence des yeux dans ces dessins ou ces modelages m'a beaucoup frappée, parce que vous signalez toujours les modifications qui interviennent, un œil qui est placé dans un sens.
C'est extrêmement important, puisque c'est la première perception de l'autre à distance,
oui,
sans qu'il y ait corps à corps qui fasse se confondre les deux physiologies séparées à partir de la naissance. L'enfant et la mère ont été confondus. Et il y a l'audition existait avant, quand ils étaient l'un dans l'autre, l'audition existait. Il y a eu tout d'un coup beaucoup de décibels au moment de la naissance pour ceux qui ont l'audition, mais ce qu'il n'y a jamais eu in utero, c'est la vision de la réalité. Il y avait certainement des phosphènes,
oui,
mais ça n'était pas repéré à l'approche, à l'éloignement, au contact du corps qui se mettait à exister autrement que chose par le fait du contact à la mère. Enfin, c'est pour ça que le regard, il est relié à la mère, mais à distance. Il est déjà symbolique d'un bientôt contact ou d'une bientôt séparation.
Françoise Dolto, j'ai été frappée en lisant le cas Dominique d'une expression que vous employez pour définir le regard de Dominique. Vous dites « Il regarde en coin, les prunelles coulées sous les paupières, vers son modelage qu'il touche et tapote délicatement de la pulpe des doigts. » Est-ce que justement ce regard n'est pas, comme disait Starobinsky, un tact sans contact, et que justement ce contact s'établit par le modelage? Il y a toute une histoire du contact dans cette petite phrase, je trouve.
Certainement. Et cet enfant a été phobique d'être pris. Le regard prend. Et s'il ne pouvait pas prendre avec son regard, c'est parce que s'il prenait, ça voulait dire que l'autre aussi le prenait et le dévorait. Car prendre, c'est quand le regard se développe, au tout à fait début de la vie, l'enfant prend d'avance, c'est une promesse du prendre.
Il mange des yeux.
Il mange des yeux.
Et il y a aussi une anticipation du désir et aussi une prise, enfin à distance dans le temps, une prise à retardement.
Oui, mais quand vous dites désir, le seul désir qui existe, c'est le désir de communication à l'autre. Malheureusement, ce désir a débuté avec le besoin. Et le besoin, c'est destruction de l'autre. Pour faire sa chair, nous devons détruire l'autre. Et la destruction qui est liée à une répétition du besoin, cette destruction qui est toujours à recommencer, puisque la mère n'est jamais complètement mangée, mais l'enfant étant complètement rassasié, il croit que la mère est complètement mangée. C'est uniquement par le désir du regard qui continue et qu'elle est toujours intègre dans son regard et dans la façon dont elle l'aspecte, pourrait-on dire, que l'enfant saisit la différence entre l'amour, qui est une sublimation du désir, et entre le vivre bien repu, qui n'est qu'une expression d'un besoin satisfait.
Vous montrez par là même le pouvoir fantasmatique du,
oui,
regard.
Absolument, c'est un pouvoir fantasmatique aussi dangereux qu'initiateur aux plus symboliques et subtiles joies.
Ce pouvoir fantasmatique se dévoile extraordinairement dans le langage. La quantité de métaphores, souvent triviales comme « va te faire voir »,
oui,
par exemple,
oui, oui,
montre cette contamination du fantasme dans la vie quotidienne et dans le langage de tout le monde.
Oui. Je pense aussi que l'importance du regard est renforcée par un refoulement fondamental chez l'être humain, qui est le refoulement de l'olfaction.
Qui serait un sens plus animal,
oui,
a-t-on tendance à dire.
Qui, l'olfaction et l'audition, nous les refoulons. parce que l'olfaction c'est animal et que l'audition n'est pas seulement que de la voix, c'est aussi des bruits de borborygmes viscéraux qui sont aussi bien des bruits animaux qu'humains. Et je crois que c'est à cause de ça que l'œil est privilégié, parce que comme il est à distance, il est comme, il est sans odeur, il est sans sonorité, il est sans référence à la tripe. Parce que nous sommes des sacs à tripes.
Très symbolique. Justement.
Nous sommes des sacs à tripes et nous ne pouvons pas nous en sortir de cela aussi. Hein? Et c'est par le regard que nous sublimons ce T'as désir petit. De communiquer dans l'espace avec un être qui se profile, il faut le dire, sur le firmament. Car lorsque nous sommes enfants, nos parents se profilent sur le firmament. J'aimerais encore vous dire autre chose concernant la vue, des choses dont j'ai l'expérience. Ce sont des individus qui viennent en psychothérapie et dont on découvre qu'ils ont été myopes, sans qu'on l'ait su, jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Alors là, c'est extrêmement intéressant parce que on s'aperçoit que certains mots n'ont pas le même sens pour eux que pour les autres. Par exemple, un arbre, ils ne savent pas qu'un arbre, ça a des feuilles. C'est une chose auquel nous ne pensons pas. Mais pour des myopes, enfants, un arbre, c'est un tronc d'arbre auquel on se cogne. Et ça n'a pas de feuilles. Ce qui a des feuilles, ce sont des branches, mais pas les arbres. Les arbres n'ont pas de branches. Les branches et les arbres sont séparés. Et c'est quelque chose de très important au point de vue symbolique, car il y a chez eux, du fait du langage que tout le monde parle, une infirmité dans l'entendement qu'ils ont de certains mots. Nous avons tous cela pour quelque chose, mais nous le comprenons quand tout d'un coup nous découvrons qu'était tout à fait riche de langage un être humain qui s'en sert sans savoir de quoi il parle.
Mais vous parlez de l'arbre justement, et je me souviens que dans le cas de Dominique, dans une note, vous expliquez ce que l'arbre représente pour l'enfant, justement une sorte de vécu végétatif.
Oui, justement.
Et j'aimerais que vous nous expliquiez cela.
Je ne peux pas vous expliquer. Acceptez-le comme une découverte psychanalytique, qui est, pour que nous ayons connaissance, connaissance vraiment, c'est-à-dire pas seulement le mot, mais l'expérience de la chose dont le mot nous permet de parler. C'est parce que nous nous projetons dans cette chose. Et nous revenons à cette question que le myope se projette dans une branche dont il ne sait pas qu'elle naît sur un arbre, mais ne peut pas se projeter dans un arbre vivant, puisque un arbre, pour lui, c'est un tronc auquel on se cogne. Et le tronc, c'est aussi une personne qui est tronquée, qui n'a ni tête ni jambes. Ce qu'est un petit enfant quand il est petit, l'adulte pour lui a des jambes et une tête, lui il est co-l'adulte sensé, tout seul il n'est pas sensé, tout seul il ne sait pas qu'il voit que par les mots, il ne sait pas qu'il entend que s'il est entendu, etc. Notre début dans la vie est un début extraordinairement surréaliste, ce que nous oublions complètement, que les surréalistes ont retrouvé sans savoir qu'ils retrouvaient leur enfance.
Absolument.
Mais je vous parlais, puisque nous parlions des yeux, du cas particulier des myopes qui nous fait comprendre que les adultes ne disent pas à l'enfant beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se voient ne sont pas dites. Personne ne va expliquer à un enfant que le tronc d'arbre auquel il vient de se cogner, en haut, s'il montait très haut, il verrait qu'il y a des branches et qu'au bout de ces branches, des feuilles.
Mais je suis intriguée par cette figure de l'arbre, parce qu'elle est si symbolique, enfin si présente dans la peinture, dans les poèmes, que spontanément je tendrais à penser que c'est une image, par exemple, des parents, que c'est le père,
sûrement,
c'est la force.
Pour commencer, c'est une image comme celle-là. N'empêche que le jour où, dans la réalité, un enfant myope découvre que les arbres ont des branches et qu'au bout des branches, il y a des feuilles, et que les arbres qu'il ne voyait pas, le jour où on lui met des lunettes, sont ce qu'elles sont, le monde se transforme à ses yeux. Et même ses parents se transforment alors qu'il les connaissait bien.
Mais pour revenir à la myopie, justement, le docteur Basset expliquait comment les accès de myopie chez de très jeunes enfants sont souvent le signe d'une contrariété, difficulté dans leur évolution. Et cette myopie signifierait, d'après ce que vous dites, une incapacité à communiquer avec
lui. Ou une défense à communiquer avec lui. Quoi qu'il en soit, comme effet secondaire, cela empêche que l'enfant saisisse le monde comme il est. Non, tout ce que je vous disais, que ce soit une raison psychogène ou que ce soit une raison organogène, ce trouble de la vue, de la vision, ce qui est important, c'est que nous ne parlons pas les uns avec les autres de ce qui se voit. Il nous semble que puisque ça se voit, c'est pas la peine d'en parler.
Oui, et que tout le monde le voit.
Et que tout le monde le voit.
Oui.
Or, c'est faux. Nous devrions pouvoir parler de tout. Et en analyse, pourquoi mettons les gens sur le divan et qu'ils ne voient pas l'analyste ? Précisément pour cela, pour qu'ils arrivent à tout parler et que rien n'aille de soi parce qu'on se regarde et qu'on se comprend sans avoir à le dire avec des mots.
Et la relation psychothérapeutique, justement, qu'implique-t-elle par le regard ?
Le psychanalyste qui fait de la psychothérapie, parce qu'on peut faire de la psychothérapie en étant psychanalyste, juge qu'il est inutile que cette personne retourne à un passé très archaïque en elle et qu'elle peut rester sur le plan de la conversation avec quelqu'un pour retrouver une aisance avec elle-même, avec une personne exemplaire qui ne la juge pas. La psychothérapie va beaucoup moins profond qu'une psychanalyse sur le divan. En même temps, il y a des censures. La personne en psychothérapie censure certains dires. Et le psychothérapeute pense que, ma foi, tant pis, ces censures peuvent rester, étant donné ce qu'il perçoit de la souffrance de cette personne, que ces censures ne vont pas nuire, qu'il y aura assez d'expressions non censurées qui pourront sortir, parce que le psychothérapeute prépare cette personne à parler autrement qu'en société, et puis parce qu'elle le paye pour parler, ce qui est une chose très importante. Et tout de même, on va conserver les censures qui, sur le divan, ne se conservent pas. Il est très difficile de face à face avec quelqu'un de parler d'une façon qui n'a pas de sens, de dire des mots sans savoir pourquoi on les dit.
En libre association.
En libre association. Et la libre association conduit certaines personnes à un langage clownesque, à un langage poétique, à un langage absconse.
D'écriture automatique, par exemple,
par
comme
moment,
dans le surréalisme,
oui.
Qui alors, tente de retrouver son
ce
enfance.
Ce à quoi on ne peut absolument pas arriver en face à face, car il y a la censure devant cela.
Et autrement dit, dans la psychanalyse, la personne, j'allais dire l'enfant, et c'est un lapsus significatif, retrouve le rapport à son corps, par
voilà,
exemple de la
oui.
toute petite enfance, et ce plaisir confus et diffus à travers des zones érogènes généralisées.
Oui, il retrouve tout ce surréalisme qui est recouvert par notre esprit logique peu à peu. Et c'est à travers un sentiment surréaliste du monde que nous vivons, et pas du tout à travers une logique, quand nous vivons vraiment. Pour communiquer, nous communiquons avec les mots que nous croyons que l'autre va comprendre. Mais quand nous vivons avec nous-mêmes, nous avons des images que l'autre ne comprendrait pas.
Oui, vous avez employé à nouveau le mot « image ».
Oui. Et qui n'est pas que visuel.
Justement, mais qui peut-être tout de même montre à quel point la vision est une expérience globale et totalitaire, je dirais même, dans la mesure où constamment nous y revenons,
oui.
comme un stade antérieur, mais qui souvent n'a pas été
oui.
vécu
oui. Mais il faut dire qu'en français, le mot « image » est extraordinaire, parce que ces trois phonèmes, ben, « i », qui est vraiment l'identité en profondeur, « ma », c'est vraiment ce qui vient pour la relation au premier autre, et « je », c'est la symbolique de « moi ». Ma. D'ailleurs, quand l'enfant dit, est petit, il ne dit pas jamais « moi ». Il dit toujours « ma » en français.
Et ce sont trois syllabes. Qui est si
alors, le
important.
Mot « image », il y a des images gustatives, il y a des images tactiles, il y a des images auditives, il y a des images colorées, il y a des images blanches. Et les images blanches, nous le savons dans les tests projectifs, c'est vrai que lorsqu'on présente une image blanche à quelqu'un, il y voit beaucoup plus de choses que sur les images où il y a des dessins.
Ceci me renvoie à ce que nous avons développé au cours des précédents entretiens sur la symbolique du mot pupille, qui veut dire petite fille ou petit enfant selon les langues,
oui.
et qui dit la naissance. Et je crois que, à travers ces entretiens, nous essayons de retrouver une naissance qui, par le langage, renverrait à des images lesquelles renvoient à d'autres sens, de la sûrement. Vue au sens peut-être plus archaïque, justement, mais expérimenté avec beaucoup de violence et de plaisir dans l'enfance.
Oui, c'est une connaissance, c'est une intériorisation de l'autre qui vient en nous prendre la place d'un inconnu du désir.
Par exemple ?
Par exemple, si vous voyez un bébé tété, l'intensité du regard d'un enfant, d'un nouveau-né de quelques jours qui tète, est vraiment poignante. C'est l'intensité de l'être qui est conscient qu'il contribue au vivre du monde entier. En même temps...
Un sentiment de toute puissance, d'ailleurs.
Oui, mais de très grande humilité en même temps, extraordinaire. Il y a une toute puissance et il y a une telle concentration en lui, à l'intérieur de lui-même. Il regarde en même temps l'intérieur et il est au guet de tout ce qui pourrait le déranger de vivre. Hein, c'est très étonnant, ce regard. Mais ce regard du bébé, qui cherche le regard de l'adulte dès qu'il a la vision, parce qu'il faut tout de même quelques semaines pour qu'il puisse s'accommoder... Il est tout de même extraordinaire de voir à quel point les mères se dérobent au regard de leur bébé.
D'ailleurs, il y a une violence, on l'a dit, sexuelle, à proprement parler, de cet échange de regards, et qui renvoie à ce regard, à cet œil qui est le sein, qu'on retrouve constamment dans les peintures.
Et dans les dessins des enfants qui sont phobiques de la relation à l'autre, où ils font le corps avec deux yeux, et l'ombilique est une bouche, ou un nez, qui est dangereux, et le sexe de la femme qu'il dessine dans ses corps nus est aussi une bouche d'enfer.
Ça nous renvoie...
Sur les enfants phobiques et prépsychotiques, c'est très important, cette image du corps nu avec deux yeux à la place des seins de la mère.
Ça nous renvoie à la construction symbolique et au déplacement que l'enfant opère sur le visage. Par exemple, Ferenczi le dit bien, comme il ne voit que le visage, il ne voit pas les autres parties du corps, il représente
tout le corps,
le corps sur le visage, le nez représentant souvent le sexe de son père, ou les yeux, il voit un œil unique qui représente le sexe de la mère ou du père, ou les testicules aussi, dans certains cas.
Et quand je vous entends dire « il représente le père », il faut encore l'entendre autrement. Il représente lui-même pensant le père, lui-même pensant la mère. Ce n'est pas le père et la mère réels. C'est la symbolique de ces êtres qui, en lui, il lui faut des répondants à l'extérieur.
Oui.
C'est trop lourd à porter s'il n'y a pas des répondants à l'extérieur de ce qu'il ressent, de si intensément symbolique.
Oui, je simplifiais parce que j'oublie, comme tout le monde, de naître à chaque phrase.
Oui, mais je vous le montre là parce que très souvent, les gens qui sont un peu informés de psychanalyse croient que le père, la mère, ce sont ces gens réels, mais pas du tout. C'est pas ça.
Non, nous rationalisons beaucoup alors qu'en fait, tout se passe à un niveau beaucoup plus obscur et lumineux en même temps.
Oui. Je crois que le fait que nous ne trouvons pas d'autres moyens pour symboliser le sens de la mort pleine après une vie vraiment vécue jusqu'au bout, c'est qu'elle nous apporte la lumière éternelle. C'est extraordinaire par rapport à la vue. C'est que la symbolisation du sujet, c'est un voir éternel.
D'ailleurs, Dieu est lumière.
Mais Dieu, n'est-ce pas justement désir et communication inscrite en chacun de nous?
Désir d'amour, enfin.
Désir d'amour, désir de création en chaîne.
Oui, et j'entends bien par là Dieu, aussi bien celui des croyants que des incroyants.
Des apostrophes yeux.
Voilà, des yeux.
C'était Les chemins de la connaissance, Les yeux fertiles, cinquième partie avec Françoise Dolto, au micro de Karine Berriot, une émission diffusée la première fois le 31 octobre 1975 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.